Chers frères et sœurs en Christ, s'il y a une lettre qui nous montre la passion de Paul pour sa mission d'apôtre, sa passion pour le Christ, c'est-à-dire sa passion de chrétien, c'est bien cette lettre aux Philippiens. Cette lettre nous montre l'affection de Paul, toute simple et fraternelle, pour une communauté qu'il a connue et avec qui il a partagé énormément. C'est en cela que cette lettre est émouvante, tant elle nous livre les confidences simplement humaines, confidences à ses frères et sœurs dans la foi d'un homme comme les autres. Cette lettre, surnommée paradoxalement l'épître de la joie, est d'autant plus émouvante qu'elle est écrite en prison. C'est-à-dire, pour reprendre un terme très usité en ces temps, dans un temps de confinement forcé pour lui et de difficultés, où le risque pour Paul d'être exécuté se trouve à tout moment, en tout cas est là, omniprésent. Pour autant, Paul prend le temps d'appeler ses frères et sœurs à l'imiter. Et cet appel, Paul prend le temps de nous le transmettre à nous, 2000 ans après. Mais attention, ce serait mal le comprendre que de penser qu'il se présente, de par sa foi et de par son comportement, comme l'être parfait à prendre pour exemple. C'est mal comprendre Paul, qui, par expérience, nous dit et redit que la foi, que notre foi en Christ éternel, est sans cesse une mise et remise en question radicale, et que surtout, elle est le renversement de tout idéal de perfection. Et Paul nous en parle avec d'autant plus d'éloquence que le renoncement, en particulier à la perfection religieuse, eh bien, ce renoncement constitue l'essentiel du récit de sa propre conversion sur le chemin de Damas. De là son exclamation : Christ est ma vie. À travers cette exclamation de Paul, qui se doit de devenir la nôtre, nous percevons deux compréhensions de l'existence. Soit Christ devient profondément notre raison de vivre, soit nous nous soumettons à notre raison propre, qui n'est que le résultat de ce que nous vivons dans notre époque et dans notre temps. Christ est ma vie. En nous disant cela, Paul partage avec nous une découverte essentielle, à savoir que la rencontre avec Christ nous introduit dans un monde qui n'existe pas encore, mais que nous pouvons et que nous devons vivre. Cette rencontre nous introduit dans un monde qui ne peut pas être sans notre propre transformation, dans un monde auquel nous n'accédons que par la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème. Et cela, cette transformation n'est possible qu'à la condition de la rencontrer dans l'émerveillement d'un visage resplendissant, qu'il est possible de rencontrer non pas dans des livres, non pas dans des écritures, non pas dans des institutions, non pas dans des techniques, mais à travers tout visage humain qui s'ouvre à la générosité et à l'amour. Comprenons bien alors que lorsque Paul nous demande de l'imiter, ce n'est pas pour que nous devenions nous-mêmes des Pauls. Cela n'a aucun sens de l'imiter dans sa personne et dans ce qu'il est. Par contre, nous l'imitons effectivement lorsqu'à son exemple, nous pouvons être en capacité, nous aussi, de vivre en Christ. C'est-à-dire de savoir qu'il nous est possible d'être des humains, pleinement humains, et de nous tenir debout, quelles que soient nos imperfections et quelles que soient nos propres limites. Qu'il est possible pour chacun de nous de faire surgir en nous une liberté créatrice. Qu'il est possible de ne pas être esclave de notre propre histoire. Qu'il est possible de remonter le cours de notre propre moi, de notre propre égo passionnel qui nous habite tous, sans exception, et qui trop souvent nous enferme dans un déterminisme dont nous ne cessons jamais d'être complices. Paul, lui qui, souvenons-nous de cela, lui qui était un pharisien, persécuteur, zélé de chrétiens, sait désormais que c'est ce visage-là qui est le Christ vivant. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce Christ-là. Souvenons-nous que c'est ce Christ-là qui parle à la Samaritaine, qui l'invite à chercher au-dedans d'elle-même cette source qui jaillit en vie éternelle. C'est aussi ce Christ-là qui se révèle au lavement des pieds. Et bien sûr, c'est ce Christ-là qui s'élève dans l'agonie et dans le supplice du bois de la croix. C'est aussi ce Christ-là que, plus tard, saint Augustin, lui qui avait eu une jeunesse complètement débridée et fantasque, reconnaissait qu'il saluait, qu'il célébrait dans cette parole incroyable et magnifique de ses confessions en disant « Tard je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, et pourtant tu étais au-dedans de moi, mais c'est moi qui étais au dehors. Christ est ma vie. » En disant cela, Paul veut nous faire comprendre que nous n'avons rien à imiter, ni même rien à donner, si nous sommes et restons esclaves de notre propre ego. Nous pouvons parler de Christ toute la journée, ça ne sert à rien, c'est vain. Car quoi qu'on dise et fasse, il s'agit toujours d'un faux Dieu si nous n'en vivons pas. Voilà pourquoi le seul témoignage que Paul nous invite à porter et à imiter, c'est-à-dire littéralement à reproduire, c'est le témoignage d'une vie qui s'efface devant la vie infinie, d'une vie qui fait le vide en soi pour accueillir l'amour infini qui est le Christ lui-même. Nous devrions toujours avoir à l'esprit que la lumière, comme celle que nos amis ont installée dans ce temple, eh bien, la lumière n'est pas tant ce que nous voyons directement. Mais la lumière est ce qui nous permet de voir tout le reste. C'est-à-dire qui nous permet de voir tous nos frères et sœurs en humanité. Qui nous permet de voir même toute la création. Comprenons alors que lorsque l'Évangile nous dit que Jésus est la lumière du monde, il nous amène à entendre, à comprendre et même à attester que Jésus, le Christ de Dieu, Eh bien, cette composition et cette fusion entre la matière et l'esprit, et que de ce seul fait, nous pouvons, chacun de nous, là où nous sommes et tels que nous sommes, en attester. Et bien évidemment, voir tout ce qui se passe autour de nous, profiter des choses du monde dans leur plénitude. Voilà pourquoi, à la suite de Paul, au lieu de dire et répéter depuis notre catéchisme que Dieu est venu dans le monde par Jésus, il serait peut-être plus juste de dire et de comprendre que Jésus, celui qui, dans un moment de l'histoire, dans un moment du temps chronologique, est né d'une femme sous la loi, comme le dit Paul à ses amis Galates, et celui-là, ce Jésus, est sorti d'un monde éternellement imprégné et éternellement rempli de Christ. Et même plus précisément, pour le dire autrement, l'incarnation du Verbe devenu chair coule, découle et s'écoule de l'incarnation éternelle, à savoir l'union d'amour du Père céleste avec toute la création dans tout ce qu'elle est. Si nous comprenons cela, alors nous pouvons comprendre aussi pourquoi Paul rajoute que mourir représente un gain. En nous disant cela, il sous-entend que sa vie ne s'épanouira pleinement que dans la rencontre définitive et éternelle avec le Christ. Et cela, il le précise, reste une préférence pour lui. Nous sommes, dit-il à ses frères et sœurs de Corinthe, pleins de confiance et nous préférons quitter la demeure de ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Pour le coup, c'est bien là quelque chose qu'en réalité nous ne comprenons pas. Pour le coup, nous avons là quelques difficultés à suivre Paul et à suivre son raisonnement. Et pour le coup, il n'est surtout plus là question de limiter, évidemment. Et pourtant, nous retrouvons là un écho de cette solidarité intime qui nous unit au Christ et que Paul exprime si souvent dans ses écrits et qui est un de ses thèmes préférentiels, à savoir que précisément, notre destinée de disciple est de ne faire qu'un en Jésus-Christ. Jusque au moment, que cela nous plaise ou non, de notre mort physique. Et bien sûr, après, puisque nous aurons la vie éternelle. En attendant, Paul, malgré la situation difficile dans laquelle il se trouve, ne compte pas abandonner, car quoi qu'il en soit, il considère qu'il arrive là où il est, même à partir de là où il est, à faire un travail utile. Cela ne veut certainement pas dire qu'il se considère comme indispensable. Il sait ce que tout le monde sait, ou ce que tout le monde devrait savoir, c'est qu'il n'est en rien indispensable, car personne n'est indispensable. C'est Christ seul qui agit dans le cœur des fidèles. Il ne s'agit donc pas de parler de cas de conscience pour Paul, car précisément, ce n'est pas lui qui décide de son sort. Nous devrions apprendre ou prendre le temps d'apprendre de ce modèle d'abnégation, au vrai sens du terme, en ce sens que son seul souci reste la mission auprès de ceux qui lui ont été confiés. Voilà pourquoi il les exhorte au même titre qu'il nous exhorte, quant à vous, quant à chacun de vous, ayez un comportement digne de l'Évangile. Nous avons, à travers ces mots qui s'adressent à chacun de nous, tout un programme. Mais un programme d'une simplicité extrême. Paul veut nous dire par là que la seule manière d'être digne de l'Évangile, c'est de le prendre au sérieux, au point d'en vivre et de l'annoncer et d'en attester. Avoir un comportement digne de l'Évangile, c'est tout simplement consacrer nos vies à celui-ci, c'est-à-dire c'est consacrer nos vies à l'évangélisation. Ce qui, incontestablement, interroge la plupart de nos préoccupations premières que nous avons au quotidien. Beaucoup parmi nous ont appris l'Évangile au catéchisme. C'est bien, et c'est certainement mieux que rien. Et c'est très bien que les jeunes viennent au catéchisme, samedi prochain à 14h. Même les plus grands. Hein. Mais ce faisant, nous qui avons appris l'Évangile au catéchisme, l'Évangile que nous portons à nous fait partie des idées reçues. Et rien ne rend plus sourd à l'inattendu, à l'inouï, à l'exceptionnel et au merveilleux que les idées reçues. À un tel point que nous en arrivons à ressembler à ces Corinthiens dont Paul nous dit que même lorsqu'ils lisent les Écritures, ils ont un voile, non devant la bouche, mais devant les yeux. Et nous chrétiens de ce temps, chrétiens de ce pays, chrétiens de ce continent, nous devons prendre conscience et nous apercevoir qu'un voile est posé sur nos yeux quand nous lisons l'Écriture, tant l'écart ne cesse de croître et de se creuser entre ce que nous tenons pour actuel, pour important, pour préoccupant, et ce que l'Évangile de Christ est devenu dans nos existences, à savoir une fable un peu ancienne, généreuse, certainement, parfois fraternelle, souvent et même trop souvent rituelle, mais sans aucune portée dans le monde où nous vivons. Nous devons nous demander ce qui a pu rendre le merveilleux de l'Évangile, inaudible à ce point. Alors qu'à bien des égards, et on le voit dans le quotidien, l'Évangile a réussi à s'imposer dans la culture occidentale, désormais, il peine à faire entendre le merveilleux qu'il porte en lui et son caractère inouï tombe dans l'insignifiance la plus complète. Au point que les paroles d'Évangile, comme on dit, ne deviennent que des coquilles vides. Ce dont nous avons besoin, ce dont tout le monde a besoin, c'est d'une parole proprement merveilleuse, inaccoutumée et inouïe, qui réinventerait notre rapport à nous-mêmes et à ceux que nous sommes devenus. Paul nous en indique le seul moyen. C'est seulement en se tournant vers Christ que le voile est enlevé. Autrement dit, c'est par un retournement sans précédent que nous pouvons passer du déjà entendu de l'Évangile à son non encore entendu. C'est par un retournement sans précédent que l'Évangile pourra devenir notre contemporain, c'est-à-dire exister dans ce monde, mieux qu'il pourra nous devancer dans le temps, et surtout qu'il nous permettra effectivement de vivre tel que Paul a pu en vivre. Ainsi, la nouveauté de l'Évangile réside moins dans ce qu'il dit que dans l'expérience qu'il rend possible. Et c'est cette expérience qui est d'abord et avant tout une bonne nouvelle. C'est la vie, c'est chacune de nos vies qui est rendue possible par cette parole vive, par cette parole vivante qui communique simplement la joie de vivre, qui communique simplement une ode à la joie. Et c'est cette joie de vivre qui nous revient, qu'il revient à chacun d'offrir au monde et ainsi d'affirmer en l'attestant, c'est-à-dire en le manifestant, en le rendant public, c'est-à-dire en le témoignant, simplement, comme Paul, que Christ est bien notre vie. Christ est bien notre vie. Amen.